Le livre des Trois. Chronique de Pridin, tome 1. Lloyd Alexander. Extrait.
Oh oui, oui, mes soldats. Bientôt le chaudron magique sera mien. Son pouvoir maléfique coulera dans mes veines. Et grâce à moi, vous ressusciterez du chaudron. Oui, oui, oh oui, et vous me vénérerez, moi ! Moi ! Il y a si longtemps que je brûle de devenir un dieu parmi les mortels.
Chapitre 1. L'aide Porchée. Taran voulait fabriquer une épée, mais Cole, qui était chargé du côté pratique de son éducation, décida que des fers à cheval seraient préférables. Toute la matinée fut donc consacrée à forger des fers à cheval. Taran avait mal au bras et son visage était couvert de suie. Enfin, il laissa tomber son marteau et se tourna vers Cole, qui l'observait d'un œil critique. « Et pourquoi ?» s'écria Taran. « Pourquoi donc faut-il absolument fabriquer des fers à cheval ? Nous n'avons même pas de chevaux !»« Heureusement pour eux !» se contenta de dire Cole en jetant un coup d'œil au résultat des efforts de Taran. Cole était corpulent et robuste, et son grand crâne chauve luisait d'une teinte rose vif. « Je pourrais faire beaucoup mieux en forgeant une épée !» protesta Taran. « J'en suis sûr !» Et avant que Cole ait eu le temps de répondre, il saisit les pinces, jeta sur l'enclume un morceau de fer chauffé au rouge et se mit à le marteler à coups redoublés. « Attends ! Attends !» s'exclama Cole. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre !» Indifférent aux paroles de Cole, incapable même de l'entendre dans le fracas du métal, Taran tapait de plus en plus fort. Des étincelles jaillissaient tout autour de lui, mais plus il tapait, plus le fer se tordait et se déformait jusqu'à ce qu'enfin, le morceau de métal s'échappe des pinces et tombe à terre. Taran le contempla d'un air consterné. À l'aide des pinces, il ramassa le bout de fer tordu et l'examina. « Ce n'est pas tout à fait le genre de lame qui conviendrait à un héros !» remarqua Cole. « Elle est fichue !» reconnut Taran d'un air navré. « On dirait un serpent malade !» ajouta-t-il avec tristesse. « Comme j'essayais de te le dire, » poursuivit Cole, « tu t'y es mal pris. Il faut tenir les pinces comme ceci et quand tu tapes avec le marteau, toute ta force doit venir de ton épaule. » tandis que ton poignet reste souple. Cela s'entend quand on s'y prend bien. C'est comme une sorte de musique. Et d'ailleurs, ce n'est pas avec ce métal qu'on façonne des armes. Cole rejeta la lame tordue dans la forge où elle perdit entièrement sa forme. « J'aimerais bien avoir mon épée à moi, » soupira Taran. « Et vous m'apprendriez à me battre. » « Malheur !» s'exclama Cole. « Pourquoi veux-tu apprendre cela ? On ne se bat pas, Ser d'Alben !»« Nous n'avons pas de chevaux non plus, » objecta Taran, « ce qui ne nous empêche pas de fabriquer des fers à cheval. »« Suffit !» répliqua Cole, imperturbable. « C'est pour t'entraîner !»« Mais là aussi, ce serait de l'entraînement !» insista Taran. « Allons, apprenez-moi à me battre à l'épée, vous connaissez sûrement l'art de l'escrime !» le crâne luisant de Cole devint encore plus brillant. L'ombre d'un sourire apparut sur son visage, comme s'il était en train de savourer quelque chose de particulièrement agréable. « C'est vrai, » dit-il d'un ton paisible. « Il m'est arrivé de manier l'épée une ou deux fois dans ma jeunesse. « Apprenez-moi maintenant !» supplia Taran. Il se saisit d'un tisonnier et se mit à le brandir, décrivant des moulinets et sautillant en avant et en arrière sur le sol de terre battue. « Regardez !» dit-il, « je sais déjà l'essentiel !»« Et du calme !» lança Cole en pouffant de rire. « Si tu te battais contre moi de cette manière, en prenant des pauses et en sautant partout, je t'aurais déjà coupé en morceaux à l'heure qu'il est. » Il hésita un instant, puis « Allez, viens, » reprit-il. « Il faut au moins que tu saches qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de s'y prendre. » Cole ramassa un autre tisonnier. « Et maintenant, tiens-toi comme un homme, » ordonna-t-il avec un clin d'œil. Taran leva son tisonnier et tandis que Cole lui criait ses instructions, ils commencèrent à échanger bottes et parades dans un grand vacarme de ferraille entrechoquée. Pendant un instant, Taran fut convaincu qu'il avait l'avantage sur Cole, mais le vieil homme se dégagea en tournant sur lui avec une extraordinaire souplesse. À présent, c'était Taran qui s'efforçait désespérément de parer les coups de son adversaire. Soudain, Cole arrêta le combat. Taran s'immobilisa, son tisonnier suspendu en l'air. À la porte de la forge se tenait la haute silhouette voûtée de Dalben. Dalben, maître de serre d'Alben, était âgé de 379 ans. Sa barbe avait tellement envahi son visage qu'il semblait toujours regarder le monde par-dessus un nuage gris. À la ferme, pendant que Taran et Cole veillaient à labourer, semer, désherber et récolter, ainsi qu'aux autres tâches nécessaires à l'exploitation de la terre, Dalben s'occupait à méditer. Une activité si épuisante qu'il ne pouvait la mener qu'en restant étendu, les yeux fermés. Il méditait pendant une heure et demie après le petit déjeuner, puis recommençait un peu plus tard dans la journée. Les bruits de la forge l'avaient arraché à sa méditation du matin. Sa tunique pendait de travers au-dessus de ses genoux cagneux. « Arrêtez immédiatement ces idioties !» dit Dalben. « Vous me surprenez !» ajouta-t-il à l'adresse de Cole en fronçant les sourcils. « Il y a du travail sérieux à faire !»«
Ce n'est pas la faute de Cole !» l'interrompit Taran. « C'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre l'escrime. »«
Je n'ai pas dit que tu me surprenais, » fit remarquer Dalben. « Mais après tout, c'est peut-être le cas. Je crois que tu ferais mieux de venir avec moi. » Taran suivit le vieil homme hors de la forge, à travers le poulailler, puis dans la maisonnette blanche au toit de chaume. Là, dans la chambre de Dalben, des volumes moisis s'entassaient sur des étagères croulant sous leur poids et se répandaient sur le sol parmi des tas de marmites en fer, de ceintures cloutées, de harpes, dont certaines n'avaient plus de cordes, et d'autres objets divers. Taran s'assit sur le banc de bois, comme il le faisait toujours, lorsque Dalben se sentait d'humeur à lui donner des leçons ou à le réprimander.
« Je comprends parfaitement, » dit Dalben, « que l'usage des armes, comme n'importe quoi d'autre, demande une certaine habileté. Mais il appartiendra à des esprits plus avisés que le tien de décider du moment où il sera temps pour toi d'en faire l'apprentissage. »«
Je suis désolé, » commença Taran. « Je n'aurais pas dû... »«
Je ne suis pas fâché. »
l'interrompit Dalben en levant la main.
« Un peu triste seulement. Le temps passe vite. Les choses arrivent toujours plus tôt qu'on ne les attendait. »
« Et pourtant, » murmura-t-il presque pour lui-même, « cela m'inquiète. J'ai peur que le roi Cornu n'ait quelque chose à voir là-dedans.
Le roi Cornu ? Demanda Taran.
Nous parlerons de lui plus tard, répondit Dalben.
Il tira alors vers lui un lourd volume à la reliure de cuir.
Le livre des Trois.
Dalben en lisait parfois quelques pages à Taran, et le jeune garçon était persuadé que l'ouvrage contenait tout ce qu'il était possible de savoir.
Comme je te l'ai déjà expliqué, poursuivit Dalben, et tu l'as très probablement oublié.
Pridin est un pays où nombreux sont les petits royaumes et les petits rois.
Et bien entendu, nombreux sont également les chefs de guerre qui commandent leurs armées.
Mais il y a le grand roi au-dessus d'eux, dit Taran. Mat, fils de Matonui, et son chef de guerre est le plus puissant héros de Pridin. Vous m'en avez parlé, le prince Gwydion.
« Je sais, » continua Taran avec empressement, « que... »« Il y a d'autres choses que tu ne sais pas, » l'interrompit Dalben, « pour la raison évidente que je ne t'en ai jamais rien dit. Mais pour l'instant, ce ne sont pas tant les royaumes des vivants qui m'inquiètent, c'est plutôt le pays des morts, à Anuvin. Et le roi Arun, seigneur d'Anuvin. » ajouta Dalben.
Il faut que tu saches ceci, poursuivit-il avec hâte. Anuvin est plus que le pays de la mort. C'est aussi là que se cachent des trésors qui ne sont pas faits seulement d'or et de joyaux, mais également de bien d'autres choses bénéfiques aux hommes. Il y a bien longtemps, les hommes possédaient eux-mêmes ces trésors, mais par la ruse et la tromperie, Arun les leur a volés un par un pour servir ses ambitions malfaisantes. Quelques-uns de ses trésors lui ont été arrachés, mais la plupart d'entre eux sont cachés au plus profond d'Anuvin, sous la garde jalouse d'Arun.
Pourtant, Arun n'est pas devenu le maître de Pridin, fit remarquer Taran.
Et tu peux en être soulagé, dit Dalben. Il serait devenu le maître s'il n'y avait pas eu les enfants de Don, les fils de Lady Don et de son époux Belin, le roi du soleil. Dans les temps anciens, venant du pays d'été, ils passèrent par Pridin et trouvèrent cette terre riche et belle, bien que les hommes qui l'habitaient n'eussent pas grand-chose à eux. Les fils de Don construisirent leur forteresse à Ser d'Atil, loin au nord des montagnes de l'Aigle. De là, ils aidèrent les hommes à reprendre au moins une partie de ce qu'Aaron avait volé, et ils s'érigèrent en protecteurs devant les menaces que faisait peser Anuvin.
J'aime mieux ne pas penser à ce qui serait arrivé si les fils de Don n'étaient pas venus, dit Taran. C'est un destin bienfaisant qui les a amenés jusqu'ici.
Je n'en suis pas toujours si sûr, répliqua Dalben avec un sourire désabusé. Les hommes de Pridin, en effet, s'en remirent à la puissance de la maison de Don comme un enfant qui s'accroche à sa mère. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Mat, le grand roi, descend de la maison de Don, le prince Gwydion également. Mais c'est tout, soit dit en passant. Jusqu'à présent, Pridin a vécu en paix. Si tant est que les hommes puissent être pacifiques.
Mais il y a une chose que tu ne sais pas, continua Dalben, et voici de quoi il s'agit.
Il m'a été rapporté qu'un nouveau et puissant chef de guerre est récemment apparu, et même, selon certains, plus puissant encore. Hélas, c'est un homme malfaisant pour qui la mort est une noire félicité. Il joue avec la mort comme tu pourrais jouer avec un chien.
« Qui est-ce ? » s'écria Taran.
Dalben hocha la tête.
« Personne ne connaît son nom, » répondit-il. « Et personne n'a jamais vu son visage. Il porte un masque au bois de cerf et c'est pour cette raison qu'on l'appelle le roi Cornu. J'ignore quelles sont ses intentions. Je soupçonne que la main d'Aaron se cache derrière tout cela, mais je ne saurais dire de quelle manière exactement. Je t'en parle à présent pour te mettre en garde, ajouta Dalben. D'après ce que j'ai constaté ce matin, tu as la tête pleine de folie en matière de fait d'armes, mais quelles que soient les idées que tu puisses caresser, je te conseille de les oublier immédiatement. Des dangers inconnus nous menacent au dehors. Tu es à peine au seuil de l'âge d'homme et il est de ma responsabilité que tu atteignes cet âge en restant entier. Aussi, ne devras-tu jamais quitter Serre d'Alben, pour quelque raison que ce soit. Tu ne devras pas même dépasser les limites du verger et en aucun cas pénétrer dans la forêt. C'est interdit tant qu'il en sera ainsi.
Tant qu'il en sera ainsi ? S'exclama Taran. Je crois bien qu'il en sera toujours ainsi et que je devrais passer ma vie entière dans les légumes et les fers à cheval.
Allons, il y a des choses bien pires, répliqua Dalben. Tu veux devenir un héros glorieux, et tu crois que cela consiste seulement à brandir des épées étincelantes et à galoper à cheval ? Quant à la gloire.
Et le prince Guidion ? L'interrompit Taran. C'est comme lui que je voudrais être.
J'ai bien peur que ce soit tout à fait hors de question, répondit Dalben.
Mais pourquoi ? S'écria Taran en se levant d'un bond. Je suis sûre que si j'en avais l'occasion.
Pourquoi ? Coupa Dalben. Dans certains cas, on apprend plus en cherchant la réponse à une question sans la trouver qu'en connaissant la réponse elle-même. Eh bien, c'est justement le cas. Je pourrais te dire pourquoi, mais cela ne ferait qu'ajouter à ta confusion. Si jamais en grandissant, tu acquiers quelque bon sens, ce dont tu me fais parfois douter, tu tireras toi-même tes propres conclusions. Elles seront probablement fausses, ajouta-t-il. Mais comme ce seront les tiennes, tu en seras un peu plus satisfait. Taran, sombre et silencieux, se rassit sur le banc. Dalben s'était déjà remis à méditer. Peu à peu, son menton s'affaissa sur sa poitrine, sa barbe flotta autour de ses oreilles comme une nappe de brouillard, et il commença à ronfler paisiblement. Le parfum printanier des pommiers en fleurs pénétrait par la fenêtre ouverte. Au-delà, Taran aperçut la lisière vert pâle de la forêt. Les champs, prêts à être labourés, prendraient une teinte dorée avec la venue de l'été. Le livre des trois, refermé, était posé sur la table. Taran n'avait jamais été autorisé à le lire lui-même, et à présent il était sûr que l'ouvrage contenait beaucoup plus de choses que ce que Dalben avait choisi de lui révéler. Taran se leva dans la pièce inondée de soleil et fit quelques pas à travers les rayons étincelants. Dalben était toujours en train de méditer et ne semblait pas vouloir s'interrompre. La stridulation monotone d'un insecte lui parvenait de la forêt. Taran tendit les mains vers la reliure de cuir. Puis, soudain, il haleta de douleur et les ramena vivement vers lui. Elle le brûlait comme s'il avait été piqué par des frelons. Il fit un bond en arrière, trébucha contre le banc et tomba par terre. Puis, il porta ses doigts à sa bouche, l'air désemparé. Dalben cligna des yeux. Il regarda Taran et bâilla lentement. Tu ferais mieux d'aller voir Cole et de lui demander une lotion pour tes mains, conseilla-t-il. Sinon, je ne serais pas étonné que tu te retrouves avec des cloques. Les doigts brûlants et le visage honteux, Taran se hâta de sortir de la maisonnette et trouva Cole près du potager. Tu as essayé de toucher au livre des trois, dit aussitôt Cole. Ce n'est pas difficile à deviner. Et maintenant, tu en sais davantage. C'est l'un des trois fondements de l'apprentissage. Voir beaucoup, étudier beaucoup, souffrir beaucoup.
il emmena Taran à l'étable où étaient conservés les médicaments destinés au bétail. Il lui versa une décoction sur les mains.
« À quoi bon étudier beaucoup, alors que je ne verrai rien du tout ?» répliqua Taran. « Je crois bien que mon destin, c'est de ne rien connaître d'intéressant, de ne rien faire d'intéressant et de ne jamais aller là où il est intéressant d'aller. Je ne serai certainement jamais rien, d'ailleurs je ne suis déjà rien, même à Sir Dalben. »
« Très bien, » dit Cole, « puisque c'est cela qui te tracasse, je vais faire de toi quelque chose. » À partir de cet instant, tu seras désormais Taran, Ed Porcher. Tu m'aideras à prendre soin de Edwin. Tu devras veiller à ce que sa mangeoire soit pleine, lui apporter de l'eau et la brosser soigneusement chaque jour.
C'est ce que je fais déjà, dit Taran d'un ton amer.
Tant mieux, assura Cole. Ta tâche en sera facilitée d'autant. Si tu veux véritablement être quelque chose avec un titre correspondant à la fonction, c'est ce que je vois de plus évident. Et ce n'est pas le premier venu qui peut être Ed Porcher auprès d'un cochon divinateur. En vérité, Enwen est la seule truie divinatrice de tout le pays de Pridin, ce qui la rend particulièrement précieuse.
Précieuse pour Dalben, fit remarquer Taran, car à moi, elle ne dit jamais rien.
Crois-tu donc qu'elle devrait le faire ? Répliqua Cole.
Avec Enwen, il faut savoir comment poser les questions.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Il se protégea les yeux de sa main en visière. Un nuage noir et bourdonnant jaillit du verger, se précipita sur lui si vite, en passant si près de sa tête, qu'il dut faire un bond en arrière pour l'éviter.
« Les abeilles ! » s'exclama Taran. « Elles essaiment ! »
D'habitude, elles ne le font pas à cette époque de l'année, s'écria Cole. Il y a quelque chose d'anormal.
Le nuage s'éleva haut dans le ciel en direction du soleil. Un instant plus tard, Taran entendit caqueter et glousser dans le poulailler. Il se retourna aussitôt pour voir les 5 poules et le coq battre des ailes. Et avant qu'ils ne se soient rendus compte qu'ils essayaient de s'envoler, eux aussi s'étaient élevés dans les airs.
Taran et Cole se précipitèrent vers le poulailler, mais trop tard pour rattraper la volaille.
Menées par le coq, les poules se maintenaient en l'air, tant bien que mal, en agitant maladroitement les ailes, et finirent par disparaître derrière le sommet d'une colline. Dans l'étable, les 2 bœufs poussèrent des meuglements, roulant les yeux de terreur. La tête de Dalben apparut à la fenêtre. Il avait l'air passablement irrité.
« Il n'y a vraiment plus moyen de méditer, » dit-il en adressant à Taran un regard sévère.
« Je t'avais pourtant prévenu. »«
Quelque chose a fait peur aux animaux, » protesta Taran. « Les abeilles se sont envolées, puis les poules. »
Le visage de Dalben devint grave.
« Je n'ai pas eu connaissance de cela, » dit-il à Cole.
« Il faut immédiatement interroger Enwen à ce sujet. » Nous allons avoir besoin des baguettes de divination. Vite, aide-moi à les trouver. Cole se hâta en direction de la maisonnette.
Surveille bien Enwen, dit-il à Taran. Ne la perds pas de vue.
Cole disparut à l'intérieur de la maisonnette pour chercher les baguettes de divination, taillées dans du bois de frêne et gravées d'inscriptions magiques. Taran ressentait tout à la fois de la frayeur et de l'excitation. Pour que Dalben consulte Enwen, il fallait que l'affaire fût de la plus haute importance. Taran ne se souvenait pas d'avoir jamais assisté à semblable événement. Il courut vers la porcherie. D'habitude, Enwen dormait jusqu'à midi. Ensuite, d'une démarche fort élégante malgré sa taille, elle se dirigeait vers un coin ombragé de son enclos pour s'y installer confortablement jusqu'au soir. La truie blanche ne cessait de pousser des grognements et de petits rires qu'elle s'adressait à elle-même. Et chaque fois qu'elle voyait Taran, elle levait sa large tête joufflue pour qu'il puisse la gratter sous le menton. En cet instant, cependant, elle ne lui prêtait aucune attention. Sifflant et soufflant, Enwen fouissait furieusement la terre meuble à l'autre bout de l'enclos, creusant si vite qu'elle aurait bientôt ménagé une ouverture suffisante pour s'enfuir. Taran se mit à crier, mais les mottes de terre continuèrent à voler à la même cadence. D'un bond, il franchit la clôture. Le cochon divinateur s'interrompit, puis jeta un coup d'œil alentour. Et tandis que Taran s'approchait du trou déjà grand, Enwen se précipita vers le côté opposé de l'enclos pour entreprendre une nouvelle excavation. Taran était robuste et il avait les jambes longues, mais il s'aperçut, à son grand dam, que la truie était plus rapide que lui. Dès qu'il l'eut chassée de son second trou, elle fit rapidement volte-face sur ses petites faces et retourna vers le premier. Les deux trous, à présent, étaient suffisamment grands pour lui permettre de passer la tête et les épaules. À grands gestes frénétiques, Taran essaya de reboucher l'ouverture, mais Enwen creusait plus vite qu'un blaireau, les pattes de derrière bien plantées sur le sol, celles de devant occupées à remuer la terre. Désespérant de pouvoir l'arrêter, Taran sauta à nouveau par-dessus la clôture pour attendre la truie à l'endroit où elle n'allait pas tarder à émerger, pensant ainsi parvenir à l'attraper et à l'immobiliser jusqu'à ce que Dalben et Cole arrivent. Mais il avait sous-estimé la rapidité et la force de Enwen. Dans une explosion de terre et de cailloux, la truie surgit de sous la clôture en projetant Taran dans les airs. Le jeune garçon retomba si rudement qu'il en eut le souffle coupé. Pendant ce temps, Enwen courut à travers champs et atteignit bientôt les bois. Taran la poursuivit. Devant lui s'élevait la lisière sombre et menaçante de la forêt. Il s'arrêta un bref instant pour reprendre haleine, puis il se précipita à nouveau derrière elle.
Pose-le par terre. Je ne me sers de son pouvoir que lorsque j'y suis contraint, mais là, il le faut.
Son pouvoir ?
Taram, ce que tu vas voir aujourd'hui, il ne faudra jamais le révéler à qui que ce soit. Tirlir, je t'implore de bien vouloir m'accorder un savoir au-delà de mes pouvoirs, que les pensées confuses qui flottent dans ton cœur me soit aujourd'hui divulgué sans peur.